Vertigo, de 16h30 à 18h sur la première.
Bonjour François Burlan.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Ça va.
Ouais.
Vous êtes plein de sucre maintenant, ça va aller mieux. J'ai cru comprendre que cet après-midi,
j'ai un léger coup de mou.
Ouais. Et merci d'être là, en tout cas, de venir. À propos d'Atomic Bazar, c'est quoi un bazar atomique ?
C'est un ensemble de travaux qui ont apparemment rien à voir les uns avec les autres et qui sont reliés par le fil rouge, c'est au fait tous les petits bouts d'écriture qu'il y a dans mon travail, dans mes dessins, dans les travaux collectifs que j'ai fait avec des brodeuses au Sarin et avec une jeune brodeuse de Bordeaux. Mais c'est des travaux un peu disparates. Donc le lien, c'est le verbe en fait. Ouais.
Bazar.
Bah oui, c'est le grand bazar. Le bazar. Oui, exactement. Parce qu'il y a, je crois, les premiers travaux datent de 91 et jusqu'à aujourd'hui 2014. Ouais.
Ça vous plaît le bazar ? Ça vous ressemble ?
Pas tellement, en fait. Je suis quelqu'un d'assez ordré, d'assez sage. Dans mon travail, c'est le grand bazar. Mais au fond, non, j'ai une vie très régulière et très. Je suis assez sobre, hein. Ouais, dans ma vie.
Et votre atelier ressemble à quoi ?
Alors, mon atelier, par contre, c'est un grand souk parce qu'il est tellement petit. C'est une petite chambre de domestique qui fait 2 mètres sur 3. Donc, c'est vraiment ça s'appelle pas un atelier, hein. Donc, déjà, moi, tout seul, j'arrive pas à m'y tourner. J'invite jamais personne parce que c'est trop petit pour être deux dedans. Et puis, au fait, mes ateliers, ils se font au gré des collaborations que je monte ou des projets que je crée. J'ai construit un sous-marin à Bordeaux dans une immense halle qui s'appelait le Garage Moderne. J'avais monté un atelier de broderie avec des femmes Touareg, ça c'était à ciel ouvert dans le désert, à Djanet, dans le sud-est algérien. Là, je viens de finir un grand chantier lié au prix FEMS que j'ai reçu en 2013 avec toute une équipe de fous furieux là, à Toulouse. Voilà, donc après, je ne sais pas où sera le prochain atelier. Puis comme j'ai peu de moyens, donc ça me permet de louer des ateliers de manière temporaire.
Aimez bien cette idée-là d'aller ailleurs ?
Je l'aimais pas, mais je m'y suis fait. En fait, c'était un petit peu contre mauvaise fortune, bon cœur. Donc, maintenant, c'est une manière de fonctionner pour moi. Ouais.
Atomic Bazar aux Galeries du Forum Merin réunit quelques-uns de vos travaux, des poils à revisiter sur des papiers d'emballage ou brodés par des femmes touareg, des fusées, avions, bateaux sous-marins, bricolés, bariolés de slogans post-guerre froide et réalisés à partir de matériaux de récupération et aussi de grandes affiches avec des slogans. J'aimerais qu'on parle de slogans. Les slogans, ça peut être « L'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ». Débranche la télé, rebranche ton cerveau. Vous aimez les slogans, François Burlan ?
On vit dans un monde de slogans. Puis je trouve plus on va sur les réseaux sociaux, plus les phrases sont courtes. Moi, je vois avec Twitter, c'est très court, ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis je trouve aussi le rock, c'est que du slogan. Les titres des chansons rock, c'est juste pas possible, quoi. Alors, je pense, moi, je suis un petit enfant du rock'n'roll aussi. J'ai grandi avec ça dans la tête, avec des titres de chansons anglaises qui sont très percutantes. Et puis, je trouve que c'est le slogan, l'art du slogan. Je l'ai appris par la commissaire d'expo, au fait que c'était une manière, c'était comme un cri de guerre chez les Écossais. Voilà. Et je trouve que c'est effectivement un bon slogan, c'est comme prendre un uppercut de la figure, on est KO quand ça marche, ou ça met en état de transe ou de d'hypnose tellement ça peut être paradoxal. Les injonctions, un que j'aime bien, c'est il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Ça, je trouve, c'est juste fantastique. C'est pas moi, je les invente pas. Il y a beaucoup de slogans qui sont des slogans qui existaient déjà, qui sont des slogans publicitaires ou des slogans légèrement détournés. Et mis en perspective avec des images qui n'ont rien à voir avec le slogan, puis du coup ça leur redonne une nouvelle lecture ou un nouveau sens.
Et puis c'est rassembleur, un slogan.
C'est ça, oui. Après, on est tous derrière une manif, le point levé, derrière un slogan, oui, bien sûr. Mais c'est aussi de la tromperie, hein. C'est de la manip, le slogan.
C'est un raccourci, évidemment.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il faut faire court.
Ouais.
Et le dernier slogan qui était fort et qui a réuni des millions de personnes, c'est « Je suis Charlie ».
Oh putain, je parle pas de ça. Il y a tellement de gens qui ont parlé là-dessus, je n'en parle pas.
Je parle du slogan, moi, pas de l'événement.
Ouais.
C'est fou qu'une phrase puisse rassembler, c'est ça que j'aimerais dire.
C'était fascinant. Puis j'étais en France à ce moment-là, donc c'était impressionnant. Je voulais juste pas rajouter moi des mots à tout ce qui a été dit parce que je vois pas ce que je pourrais rajouter d'intelligent au propos.
La puissance d'une phrase.
Ouais.
Suffit.
Mais oui, tout à fait. Ouais.
Dans le dossier de presse de cette exposition, vous êtes décrit comme François Burlan, l'indiscipliné.
Ouais, mais ça, c'est des trucs pour les journalistes.
J'aimerais savoir.
Non, je
vous ne connaissez pas, là.
Non, du tout. Non. Moi, je suis un mec hyper sage. Non, mais vraiment, j'ai de la chance d'avoir mon travail. Parce que dans mon travail, sagement, devant ma table, je peux inventer n'importe quoi. Mais je pense souvent, les gens, ils projettent des choses sur moi qui sont totalement fausses. Moi, je suis juste timide. J'ai besoin d'avoir une vie très réglée, des rituels. Enfin, j'ai une vie assez monotone, hein, finalement.
Ça ressemble à quoi, une de vos journées monotones?
Ben, je me lève à 4 heures, soit je vais marcher, parce que...
4 heures, hein.
Ouais, ou 3 heures, même, des fois. Et puis, soit je marche une heure, l'été, quand il fait bon, autrement, je vais à l'atelier, puis je travaille, puis à midi, je ressors de mon atelier, je vais manger, comme tout le monde. À 1h30, je retourne à l'atelier, et puis je finis à 18 heures. Voilà, c'est pas si folichon que ça, hein. Mais ça suffit à me remplir de bonheur, hein. C'est des beaux moments pour moi, hein.
Besoin de sortir avant de créer.
Bah, j'aime bien marcher, ouais, ça fait du bien. Surtout que j'ai un métier qui fait qu'on est, enfin, dessiner, c'est pas franchement le truc qui qui défoule beaucoup. Je risque pas un arrêt cardiaque devant ma table à dessin. Ouais.
À propos de slogan, créer, c'est résister, fait partie de des slogans que vous avez écrits qui ne vous appartiennent pas, mais ça vous ressemble, ça?
Non, c'est rigolo parce que vous ne savez pas, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la commissaire d'expo qui a décidé d'illustrer une salle d'exposition avec ce terme qui est créé, c'est résister. Mais moi, je résiste à rien. Hein. Moi, je suis une fille facile, on me prend facilement. Hein. C'est bon. Franchement. Non, mais tout ça, c'est sympa. Je vois bien qu'est-ce qui, les intentions qu'il y a derrière, tout ça. Non, je suis pas un rebelle. Non, enfin, moi, je sais même pas où je suis. Je sais pas si je suis à droite, ni à gauche, ni, j'ai une vie très, très simple. Hein, vraiment, hein. Mais moi, ça m'effraie un petit peu chaque fois, enfin, tous ces retours qui sont balancés.
C'est vrai que vous êtes souvent décrit, si ce n'est toujours, comme un artiste à contre-courant.
Ben, ça, c'est alors un peu le propre de ma vie, mais je le fais pas exprès. Je veux dire, il se trouve qu'on a tous une note à exprimer, hein, de notre vie, ou une partition à jouer. Ben voilà, ma partition, elle est que, à un moment, on m'a mis au fond, enfin, autour de la collection de l'art brut, autour de ces gens de travaux outsider. Après, j'ai rien à voir avec l'art contemporain. On sait pas trop où je suis, mais moi non plus, je sais pas où je suis, mais je suis là où je suis, ça suffit, quoi. Voilà. Mais non, je suis ni bien discipliné, ni à contre-courant. Hein. Alors, on sait peut-être pas où me mettre, ou peut-être parfois moi aussi, je sais pas comment définir mon travail. Mais c'est pas si important que ça, finalement.
C'est vrai qu'on a besoin souvent d'être, de définir ce qu'on approche, ouais, un musée particulièrement.
Ouais, mais moi le premier, moi aussi. Hein, si
pour
j'ai...
faire un dossier de presse, tout simplement, et voilà, comme là j'en ai reçu pour Atomic Bazar, il faut mettre des mots sur ce que vous faites, sur les courants auxquels vous appartenez ou auxquels vous n'appartenez
bien
pas.
Bien sûr, ouais, exactement. Et puis moi, j'étais
c'est
très content
ça.
D'avoir, bah oui, d'être estoupillé art brut, parce que j'étais jeune, oui. C'était fantastique, c'était un tampon qui validait et qui authentifiait ma marginalité, qui disait, ah ben celui-là, c'est un marginal, on sait pas où le mettre, mais on le met dans l'art brut, donc ça donnait du crédit à mon travail. Alors après, j'avais pas compris, c'est que dans l'art brut, il y a des degrés par rapport au marché. Il faut être de plus en plus fou pour espérer toucher de plus en plus de pognon. Donc, c'était juste pas
assez
fou.
Vous n'étiez pas assez fou.
Non, c'est vrai, on m'a reproché ça. Il y a des gens qui avaient acheté des œuvres, qui refusaient de les payer. Donc, Michel Thévaux validait pas un état psychiatrique, il fallait que, comme j'étais fou, quoi, ou démon. Parce que, autrement, c'est un mauvais achat. Alors, bon, moi, je ne veux plus rentrer en matière dans des choses comme ça, quoi.
C'était difficile de sortir de cette famille-là, non? Celle de l'art brut?
Bah, c'est difficile, c'est ma famille de cœur. Je me reconnais beaucoup à travers les artistes bruts, vraiment. C'est des gens qui me touchent énormément. Le problème, c'est que c'est le marché autour qui est compliqué. Les galeries, les musées, c'est tous des fonctionnaires ou des marchands, mais qui font du fric avec la folie. Voilà, donc, eux, ils ont des vies bien sages. Et puis, leur business, c'est de... Ouais, puis le problème, c'est qu'ils travaillent avec des artistes qui n'ont pas conscience du travail qu'ils font, souvent ou rarement, et qui n'ont pas besoin de vivre de ça. Donc, ils sont pris en charge par des institutions. Donc, pour eux, il n'y a pas besoin de monnayer leurs œuvres. C'est pas important. Je pense qu'ils sont très reconnaissants quand on les invite à un vernissage. Mais je l'ai vu, ils sont pas insensibles à ça. Mais du coup, quand on essaie de vivre ce travail, quand on est indépendant, c'est très difficile. En étant dans ce milieu-là, nos prestations d'artistes sont pas reconnues comme étant monnayable, je ne sais pas comment dire ça mieux. Hein, ouais.
Vous sous-entendez un peu que certains artistes d'art brut sont un peu exploités?
Non, je ne pense pas qu'ils soient exploités parce qu'ils...
Que le marché, en tout cas, n'est pas assez concurrentiel.
C'est un drôle de marché,
monétaire.
Quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, il y a un truc qui m'échappe un peu. Non, je ne pense pas qu'ils soient exploités. C'est pas le mieux. Juste parfois, oui, mais c'est pas... je pense pas que c'est rien que général, quoi. Non, c'est juste, c'est des gens qui ont pas besoin d'en vivre, donc ils pensent pas à monnayer leur travail, c'est tout. Voilà.
François Burlan est notre invité jusqu'à 17h30. François Burlan, votre travail artistique est très, très inspiré par les images de la propagande communiste, l'imagerie soviétique, vous fascine?
Elle m'a fasciné dans la mesure où je suis la génération des gens qui ont grandi avec la construction du mur de Berlin et puis avec cet affrontement du bloc de Est-Ouest. Mais ce qui me fascine surtout, c'est que ces deux blocs avaient besoin l'un de l'autre pour exister. Donc c'est chaque fois deux faces d'une de la même médaille en fait. Hein. Et ce qui m'amusait, c'était de mélanger la propagande américaine du bloc de l'Ouest avec celle de l'Est. En fait, c'est la même histoire. S'il n'y a pas l'autre en face, on n'existe pas. Donc chacun. Puis je vois comment on critique l'autre. C'est la même critique. Enfin, l'autre c'est toujours le méchant, celui qui va nous envahir. Alors moi j'ai eu longtemps cette version du côté ouest où c'était le méchant était rouge, mais quand j'ai rencontré des amis qui ont vécu de l'autre côté, qui ont la même génération que moi, quand ils me racontent comment eux ils nous percevaient aussi, c'était nous les ennemis, les méchants. J'ai vécu ça en Algérie les derniers temps avant que je parte là, avec la montée de l'islamisme, où tout d'un coup devant les séries TV, l'ennemi c'était un type châtain aux yeux verts qui me ressemblait, et puis c'était pas un mec onibusqué aux yeux noirs et aux cheveux frisés et au teint mat. Je me dis putain de Dieu, et les gars je dis mais et le méchant là c'est moi. C'était fou d'être au milieu de gens qui, enfin, de réaliser que c'était moi le méchant. Et ça me fascine, quoi, ce genre d'histoire-là.
Voilà. Oui, genre le super-héros américain Captain America qui était pendant la guerre froide, qui avait comme ennemi les soviétiques et les communistes. Ouais. Captain America.
Voilà. Ouais. Donc je mélange tout ça, les frigidaires qui volent avec des bombes atomiques soviétiques et tout un bazar de trucs, des bouts de chansons des Rolling Stones. Enfin, c'est tout ça, c'est cette époque-là, hein. Voilà, ouais.
Ouais. La peur venue de l'Est, la peur du rouge.
Oh oui, je vous raconte à la radio, mais oui, puisque petit, là, j'ai une famille, enfin, j'étais dans un environnement où les gens avaient plutôt peur de la venue des rouges, alors que si j'aurais été de famille de gauche, ils auraient plutôt été contents, c'était le grand soir qui allait arriver. Et puis, moi, j'aime bien le rouge, j'aime toutes les, un peu ce que je voyais d'imagerie soviétique, où c'est le beau défilé du 1er mai, c'est incroyable, sur cette place rouge. Tout d'un coup, j'aimais beaucoup, beaucoup le rouge, j'avais des bottes rouges, moi, j'ai des blanches de chocolat rouges, les cahiers rouges, la magnifique que je mange toujours aujourd'hui. Puis j'ai cru que j'avais attrapé la maladie du communisme, que j'avais attrapé le virus, et que ça allait se voir, et que mes parents allaient découvrir que j'étais communiste et que j'allais perdre leur amour. Alors j'ai eu 8 mois, ou 10 mois, je sais pas, enfin, j'arrive pas à le codifier dans le temps, mais où c'était terrible, parce que c'était comme un truc contagieux que tout le monde allait découvrir, et puis j'allais être rejeté.
C'est la rougeole.
Voilà, exactement. Mais oui, la rougeole, c'est la mienne. Tout à fait.
Et le rouge, d'ailleurs, apparaît souvent dans vos travaux.
Bon, c'est une belle couleur, en fait. C'est ouais. La couleur du drapeau suisse. Mais je crois que c'est les enfants qui aiment bien le rouge. Moi, comme j'ai un travail qui est vraiment lié à des sentiments diffus d'enfance, quoi.
Et ça excite aussi le rouge. Ça réveille.
Ouais, bien sûr, ouais.
Les communistes partout, même en Gruyère, non ?
Bah oui, c'était le jeu. Puisque... ça commence là, cette histoire, en fait. C'est qu'un jour, on me demande, Madame Rabout me demande de faire l'inauguration du nouveau musée gruyérien. Et puis, je lis, je pense, la même semaine, une petite histoire dans un journal. Je l'ai dit de manière très imprécise, mais en gros, c'est ça que ça racontait. C'est qu'il y a eu plein de débats dans des conseils communaux dans les années, je crois, 20, ou peut-être même un peu avant. C'est sur la construction de la nouvelle ligne ferroviaire qui va relier la ville de Fribourg à Gruyère. Et puis on pose vraiment la question, mais qu'est-ce qu'on va faire si le train arrive à Gruyère? Les rouges arrivent avec le train, c'est les communistes, ou la pensée de Marx va débarquer à Gruyère. Et il y a des débats qui disent, mais comment on fait pour empêcher ça? Ce train, c'est la catastrophe. Et en fait, ils ont une idée pour lutter la contre, c'est de réduire l'écartement des voies du chemin de fer. Donc c'est pour ça que le train encore aujourd'hui qui relie Fribourg à Gruyère a un écartement de rail très petit. Et depuis là, ça m'a tellement amusé que je me suis dit, ah ben voilà, la thématique de l'expo, c'est que je vais faire rentrer les cocos au musée Gruyère. Rien. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Après, j'ai fait tout un délire là autour. Et puis, j'ai fait broder tous ces grands drapeaux soviétiques remplis de petits cochons et de.
Armaï, voilà, révolutionnaire.
À des femmes Touareg, là, c'était très joli, quoi.
L'Union soviétique, c'est aussi la conquête de l'espace. Gagarine, ouais. Le premier homme dans l'espace. Ça vous fait toujours rêver, ça, comme le gamin que vous étiez.
Ben, ça, étant au fond, ça faisait rêver tout le monde. Hein. C'était le feuilleton, le Dallas de l'époque. C'est juste incroyable. Et puis, il faut dire, ben, Gagarine, Armstrong, c'est des icônes incroyables encore aujourd'hui, je trouve. Hein. Vraiment, ouais.
Et du coup, vous construisez des fusées.
Ouais.
Des petites, mais aussi des immenses.
Ouais, parce que j'ai gagné un prix de sculpture, mais j'étais pas sculpteur. Donc, au plus, j'ai eu ce prix en me disant qu'il n'y aurait sûrement pas d'offre parce que j'étais pas sculpteur. Que j'étais incapable de réaliser des pièces aussi grandes. Donc, j'allais devoir m'entourer de tas de gens pour pouvoir les réaliser. Et puis, qu'en fait, l'œuvre, ce serait certainement pas ce qu'on verrait, mais ce qu'on allait vivre tous ensemble autour de la construction de ces œuvres. Le groupe que j'avais constitué de gens disparates pour la réaliser. Et je trouve juste fantastique cette fondation et dit banco, on vous donne le prix, allez-y, parce qu'il n'y avait aucune garantie que ça fonctionne. Hein. Et puis au final, il y a 3 ou 4 objets que je trouve assez réussis, mais et une magnifique histoire qui nous soude encore tous aujourd'hui. Là.
Soudé, tiens.
Oui, exactement.
C'est très impressionnant à voir. C'est même beau à voir cette fusée. Je l'ai vue et en même temps, c'est très quelque chose de très ludique, enfin très amusant, parce que on imagine le temps que vous et votre équipe avez mis à construire cette machine qui va finalement rester clouée au sol, évidemment. Ça fait penser au Cosmo Schtroumpf.
Ben c'est ça, mais je pense que le propre de ces machines, c'est comme elles ne fonctionnent pas dans le monde hyper technologique dans lequel on vit, où tout est hyper performant, marche, on fait la solar impulse, c'est magnifique. Mais je ne sais pas si ça fait autant rêver que ça. Alors ça m'amuse, c'est de voir que moi, mes objets qui sont faits de briques et de brocs, avec des il y a pas mal de bracassiers qui travaillent sur mes chantiers, avec des gens très compétents qui les cadrent, dont Maxime Fontana, qui a type incroyable, qui est de toutes mes aventures, on fait des trucs qui marchent pas. On est les seuls Suisses à fabriquer des machines qui ne marcheront jamais.
Et qui ne servent à rien.
Oui, c'est ça. Alors, du coup, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait des choses comme ça, si je travaille avec des gens qui sont marginaux, vraiment à la marge de la marge de la société, ces objets dans lesquels il n'y a aucun défi, puisque ça ne va jamais fonctionner, ça les amuse, ils ne sont pas en danger. Je n'avais pas réalisé ça parce que j'ai aucune vocation à remettre les gens sur pied.
Hein.
Voilà, ce n'est pas mon truc. Mais tout à coup, j'ai réalisé que ça réhabilitait et ça réparait beaucoup de blessures et ça permettait à des gens de se remettre en piste.
Pas d'enjeu, ça veut dire quoi? C'est de l'art pour de l'art.
C'est complètement gratuit, puis ils voient une espèce de débile qui se pointe, qui dit on va faire un truc, ils comprennent pas trop, qui va pas marcher, une fusée, mais une fusée pourquoi? Et puis d'abord, ça va, je les paye, donc ils se trouvent, il est un peu con, mais ils nous payent, c'est bien. Et puis après quelques semaines où je travaille avec 2-3 très très bons professionnels, quand ils nous voient réfléchir, démonter, remonter, on se prend vraiment la tête. C'est un jeu sérieux quand même, hein. Ils se disent putain, c'est quand même pas rien, puis ils se piquent au jeu, et il y a un moment, en plus j'ai tellement douté dans ce projet, il y a plus de capitaine. J'aurais dit, bon les mecs, je suis perdu, je sais plus où je vais. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Donc, à partir de là, il faut que vous m'ayez, quoi. Et ça a complètement changé ma façon de travailler parce que j'ai dit à tout le monde, on y va tous ensemble. Donc,
vous étiez combien sur ce coup-là?
Il y a eu, je crois, plus de 40 personnes qui ont travaillé autour de tous ces projets. Il y a eu des jeunes de l'ORIF de Sion qui ont construit une bombe atomique, une fat boy, là. Il y a des jeunes migrants mineurs, là, qui sont rejoints à nous. Des gens incroyables, hein, qui sont rejoints à nous. Il y a Maxime. Enfin, on était plein de gens, quoi. Des jeunes français, françaises qui sont venus. C'était toute une tribu improbable de photographes. Romain Méder et Nadja Kilchoffer qui ont débarqué dans l'aventure.
Et vous doutez, vous leur dites?
Bah ouais, parce que ça, je pouvais pas juste faire croire que tout allait bien, ça allait se voir. Et autant dire carrément que quand on est perdu et qu'on est en train de faire une grosse merdouille, dire mais carrément, là, je sais plus où je vais. Et ce qui était beau, c'est que tout le monde a pris sa place, du plus humble des participants à ce projet ou à celui qui avait le plus de responsabilités. Et chacun pouvait décider à tout moment de dire, bah non, moi ça me va pas comme ça, on pourrait la faire comme ci, comme ça. Et on s'est tous, tout le monde a porté ce projet. Et cette fusée, elle ne ressemble pas du tout à ce que j'avais vendu comme projet, à ce que j'avais imaginé, à ce que le commissaire de l'exposition, avait aussi imaginé, et c'est un objet qui nous appartient à tous, quoi.
Elle est immense, hein, cette fusée.
Ouais, mais
elle mesure combien?
Je crois 7 mètres, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment un projet qui est.
Et on peut même regarder de dedans.
Oui, c'est ça.
Ouais, ce qui se passe.
Ouais. Et puis, ce qui est beau, c'est que les derniers objets, on les a même pas finis. C'était plus que des esquisses ou des ébauches d'objets, parce que d'un coup, je réalisais que tous mes autres objets, où il y a beaucoup de slogans, où ils sont très. On voit très bien ce que c'est. Ils laissent pas tellement l'autre rêver. Hein, c'est moi qui a induit un chemin. À l'autre, et que du coup, avec ces objets qui sont plus que les esquisses de fusée ou de zeppelin, on sait plus qu'une carcasse, ça permet à l'autre de se projeter ce qu'il a envie, enfin le cinéma qu'il veut sur ces objets-là.
C'est très poétique, du coup.
J'espère, ouais, moi je trouve. Ouais.
C'est à nous de raconter notre histoire.
Voilà, exactement. Ouais. Et puis, du coup, ça échappe, ces objets, ils échappent à cette histoire de la conquête soviétique. Et tout
bon,
ça.
Ils décollent alors, finalement.
Ils font décoller, c'est ça, ouais, bien sûr.
On finit à quelle heure, là?
Jusqu'à 18h.
18h. 18h.
Sur la première.
Ça peut être long, hein. Vous qui détestez l'ennui, François Burland.
Qu'est-ce qui a dit ça, que je déteste l'ennui?
Non, je sais pas. Il paraît que l'un de vos moteurs, c'est l'ennui.
Ah bah oui, parce que oui, non, mais c'est vrai. J'ai tendance à m'ennuyer ou à avoir peur des temps morts, donc je travaille beaucoup. Voilà. Ouais. Et puis.
Du coup, il y en a aucun de temps mort.
Il y en a peu. Ouais.
C'est comme ça que vous êtes venu à l'art, pour tuer l'ennui, contrer l'ennui?
Je pense que c'était surtout pour pas avoir affronté la vie. C'était pour une manière de me mettre comme les trois singes là, deux mains sur les oreilles, deux mains sur les yeux et une main sur la bouche, ouais. Et puis rester un petit peu. J'ai eu de la peine à m'engager dans la vie adulte. C'était difficile pour moi. Ouais.
Vous pensez que faire de l'art, c'est contourner la vie? J'ai l'impression qu'on est en plein dedans, justement.
Ouais, ben, du coup, c'est, en voulant la fuir, j'ai été au cœur de la vie grâce à ça, vraiment. Ouais, donc, du coup, c'était le chemin pour moi pour aller à la rencontre des autres. Ouais.
Bricoler, recycler, changer de manière, changer de matière, ça aussi, ça maintient votre esprit en éveil?
Non, c'était peut-être un jour au départ parce que j'avais pas d'argent, donc il fallait que je me débrouille avec des matériaux pauvres. C'est ça, j'aurais du pognon, j'aurais travaillé avec du platine.
C'est vrai.
Bien sûr. Après, ben voilà, j'avais rien, donc il fallait trouver des vieux papiers, des machins. Alors, on croit que c'est une espèce de marque. Ça est devenu une marque de fabrique parce que j'ai pris l'habitude de travailler avec ces matériaux.
Maintenant que vous êtes riche, vous pourriez changer.
Je suis blindé aux as, quoi. C'est pour ça que je suis artiste, quoi. Et puis, du coup, c'est devenu une espèce d'habitude pour moi, un confort avec ces matériaux, mais c'est pas, voilà, mais c'est parti.
Vous travaillez avec quel matériau?
En ce moment, je travaille avec des sacs de chez Denner, hein, et des sacs Nespresso, voilà, que j'ouvre, à qui j'enlève leurs petites poignées, je les recolle. Et
qu'est-ce que ça devient?
Ça devient des magnifiques supports pour faire des affiches coco, voilà, avec Che Guevara, avec Lénine, qui dit du couillonnade, hein, voilà.
Le recyclage, c'est un parti pris artistique ou bien c'est un peu écolo?
Non, mais je ne suis pas écolo du tout. Si, enfin oui, je vous disais, je fais écolo bien sûr, mais je m'achète quand même des haricots du Kenya à Noël, donc il y a un petit problème, quoi. Bien sûr, non, mais je suis tout le contraire de tout.
C'est vrai?
Ouais, bien sûr. Entre mes idéaux et ce que je vis dans le quotidien, il y a un grand fossé. Non, puis après, je pense que j'aime beaucoup ces matériaux un peu abîmés parce qu'ils sont ils sont doués d'une âme, quoi. J'aime bien les papiers tachés, ces vieilles boîtes de conserve un petit peu avec des empreintes, je sais pas, avec des peintes qui ont disparu, tout ça. Ça m'inspire, voilà. Ouais.
Et vous êtes déjà arrivé de détruire certaines de vos œuvres d'art pour en faire d'autres?
Je viens de détruire plusieurs milliers de dessins avant-hier, voilà, avec ma femme, on a chargé une voiture pleine de dessins que j'ai compressés, déchirés, que j'ai balancés à la déchette, pas pour les recycler du tout, voilà. Parce que j'en peux plus de la place que ça prend dans ma vie, cette matière-là. Ça envahit tout, je veux dire. Donc, et puis ça me coûte trop cher de payer des dépôts. Puis je me disais, mais c'est ridicule que je paye pour des trucs morts, figés, qui riment à rien du tout pour moi aujourd'hui. Hein. Donc je préfère avoir de l'argent pour créer que pour stocker des œuvres qui alourdissent mon quotidien. Et puis je vous le disais tout à l'heure hors antenne, c'est qu'aujourd'hui, pour mon cette histoire d'Atomic Magic Circus, c'est deux camions de 40 tonnes qui se baladent. Tout d'un coup, j'ai eu peur. J'ai dit non, c'est plus possible, il faut que j'arrête de créer de la matière et de stocker de la matière. Ça m'oppresse, c'est trop, quoi.
Conserver, archiver, se souvenir, la mémoire, tout ça,
Je m'en contrefous, moi, c'est de toute façon, quand j'ai disparu. Hein. C'est le travail des musées, mais même les musées ne veulent pas ces œuvres. Parce que... C'est vrai, pour eux, c'est un problème, parce qu'ils me le disent aussi, on doit les stocker. Il y a même des musées qui m'ont exposé, qui me disent...
Mais ça doit rendre fou, les musées, l'idée que vous allez détruire des milliers de dessins.
Non, je crois pas.
Je sais pas, moi ça me choque.
C'est vrai?
Ouais.
Non, mais à part ça, franchement, il y a des travaux que j'ai fait il y a 30 ans, donc j'ai eu le temps de penser, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et puis voilà, quoi, je veux dire, je donne assez d'offres comme
et
ça.
Et puis il n'y a même pas eu un petit pincement de cœur.
Non, juste un sentiment de légèreté. Oh, c'était trop bien. Ouais, ouais. Non, vraiment. Ça fait de la place pour autre chose, vraiment.
Ouais. Vous n'aimez pas regarder ce que vous avez fait
Si, mais moi, mais ce que j'ai fait, il est en moi. C'est moi aujourd'hui, voilà. Donc je suis fait de ça. J'ai pas besoin de l'empiler. Et en plus, ça vaut rien. Ça intéresse pas au grand monde. J'ai beaucoup de reconnaissance dans le sens où je montre beaucoup mon travail, mais peu de gens l'achètent. C'est-à-dire que les gens qui ont les moyens, ça les dérange trop. Ça fait pas mal dans leur salon. Et puis ceux qui aimeraient se le payer, ils ont pas le moyen. Donc je suis un peu dans un truc entre deux. Donc à quoi bon stocker tout ça, quoi.
Ce que j'aime chez vous, François Burlan, c'est cette dualité dont vous vous amusez d'ailleurs. Vous parlez de la société de consommation, souvent on les retrouve dans vos travaux, c'est des slogans « consomme pour devenir un surhomme », comme si la société vers laquelle on se dirige vous choquait, puis en même temps vous y participez complètement en mangeant des haricots du Kenya.
En achetant des chemises Paul Smith dès que j'ai 100 francs de côté. Voilà, non mais bien sûr, moi je suis en plein dans ce monde de la société de consommation.
Je reviens à vous, François Burlan, et vos paradoxes, et vos envies de dire et puis de dire son contraire.
Bon, on est tous un peu comme ça. Fin,
c'est vrai?
Ouais, mais moi je vous disais tout à l'heure, j'aurais bien voulu être un bad boy, un rebelle, mais au fait, c'est pas, j'ai pas la carrure, j'ai des grosses bagouses, des Rolex à mon bed, quoi.
Vous auriez voulu être un bad boy, franchement?
Bah ouais.
Non, je crois pas. Vous jouez là.
Bah, à l'école, c'est eux qui ont marqué toutes les cocottes. C'était pas moi, hein, je peux vous le dire, quoi. Donc, bien sûr que ça fait rêver aussi. C'est qui tous ces jackpots avec leur bling bling là, en faisant du rap. Non, franchement, rouler avec leur bagnole à la con. Non.
Vos dessins, ça marchait pas avec les filles.
Ah, être artiste, c'est un bon truc quand même, bah pour attraper des filles, ça fonctionne. Bah quoi. Ouais, mais après, voilà quoi. Hein. Mais après, on croit que les artistes, ils sont tous blindés aux as. Et que... Puis on pense tous qu'ils ont une vie passionnante, mais c'est des vies assez monotones et très laborieuses. Ouais, vraiment. Hein.
Laborieuses, votre manière de travailler, est-ce qu'elle raconte une vision que vous avez du monde?
Non, c'est pas une vision du monde, c'est juste un manque de talent. Donc, comme j'ai pas beaucoup de talent, je le pallie par un travail acharné. Voilà. Donc,
franchement.
Ouais, franchement.
On se parle franchement, là.
Ouais.
Vous pensez manquer de talent?
Au départ, ouais. J'avais des tas de copains qui étaient bien plus doués que moi. Et moi, j'étais pas très bon. Mais après, j'ai travaillé. Mais je vois ça quand je vois des jeunes artistes. Il y a des fois des gens très brillants, mais on sent qu'ils vont pas aller loin parce qu'ils sont pas habités par quelque chose. Et puis, j'étais galeriste aussi à un moment. Et il y avait des gens, des fois, qui venaient à l'atelier. Le travail était pas bon, mais on sentait que ces gens, on sait pas pourquoi, ils avaient un petit truc en plus, quoi. Ils étaient habités par quelque chose qu'on voyait pas forcément de leur travail à ce moment-là. Mais je pense que ces gens ils avaient plus de chances, en travaillant avec acharnement, à toucher à quelque chose de plus essentiel. Quoi.
Donc à votre avis, François Burlan, pourquoi est-ce que les musées s'intéressent sur la scène nationale, mais aussi internationale? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à vous si vous pensez manquer de talent?
Bah, je pense déjà, je suis un battleur, donc quand je suis face des gens, je dois être séduisant ou assez sympa, et puis je pense qu'il y a un côté affect, ça suffit pas. Et puis le reste, bah, ça m'appartient pas, je veux dire, moi je fais le mieux que je peux quand je travaille, mais après, c'est l'autre qui le reçoit. Hein.
On a parlé, François Burlan, de votre exposition au Forum Mérin, mais on pourra aussi bientôt voir une autre exposition, Atomic Magic Circus, au Centre d'Art Contemporain Quartier Général, nouveau Centre d'Art Contemporain qui ouvrira ses portes la semaine prochaine, la vendredi prochain, 20 février, à la Chaux-de-Fonds. Mm-hmm. C'est génial ça, c'est très bon signe, non, à l'ouverture d'un nouveau centre contemporain?
Bah, c'est juste extraordinaire, puis je dois le dire, c'était porté mais vraiment à bout de bras par une femme incroyable qui s'appelle Corinna Weiss, qui est, je crois, l'instigatrice de ce projet. Et, c'est juste un endroit extraordinaire, c'est des anciens abattoirs qui ont été construits au 19e siècle, fin 19e.
Ah, donc c'est des grandes halles comme ça?
Il y a une espèce d'immense nef qui doit faire 80 mètres de long sur 20 de large, et le quartier général sera... Donc, ce complexe donc des abattoirs dans l'ancienne halle d'abattage. Je trouve que c'est parfait pour des artistes d'aller.
Ah, pour vous, l'espace, ça vous convient, ça hein?
Ouais, ça m'amuse, oui, vraiment, quoi.
Ça allume votre imaginaire, ça, d'ailleurs, quand vous vous retrouvez quelque part?
Ah, bah, bien sûr, quoi. Oui, oui. Et puis, c'était fort, c'est parce qu'on a été faire des repérages, les animaux venaient de partir, donc il y avait encore l'odeur du sang, il y avait. Enfin, c'était vraiment. Et de la viande, quoi. Puis, les jeunes mineurs avec qui j'étais migrant, là, ils trouvaient que ça sentait tellement bon, cette viande. Et moi, j'étais écœuré, c'était fort, quoi. Non, c'est un endroit fantastique, quoi. Et puis, là, je dois dire, j'expose pas tout seul. J'expose avec Nadia Kilchoffer et Romain Médère, les deux photographes, là, avec qui je travaille depuis plus d'une année. Il y a Maxime Fontana qui m'accompagne aussi dans cette aventure, les jeunes migrants, enfin, puis toute mon équipe qui, on se retrouve tous pour une semaine, là, pour le montage de cette exposition à partir de dimanche. Ouais.
Ça bouge pas mal à la Chaux-de-Fonds.
Il se passe plein de choses, puis c'est juste, enfin, je connais mal, hein, mais le peu que j'ai vu, c'est il y a plein de squats, il y a plein de gens qui font de l'édition, enfin, des gravzines, des fanzines, il y a plein de musique, enfin, c'est vraiment incroyable.
Les Beaux-Arts, le TPR, Plage des Six-Pompes, le 44, même les.
Voilà, exactement.
Chaux-de-Fonds, donc, où on verra certaines de vos œuvres issues de collaborations. Vous en avez cité quelques-uns. Qu'est-ce que les autres vous apportent, par exemple Romain Madère ou Nadia Kilchoffer?
Ben, c'est-à-dire qu'ils donnent du sens ou ils donnent une autre dimension à mon travail. Moi, je les ai engagés pour qu'ils créent une fiction autour de mes objets. Et puis, du coup, ils ont inventé une planète qui s'appelle la planète Aliona et tout un scénario drôle et abracadabrant, là, avec des Ukrainiens qui partent coloniser l'espace. Et puis, je trouve que ça rajoute beaucoup de fantaisie et de profondeur à mon travail, vraiment. Ouais.
Et puis, vous les laissez libres?
Complet. Ah bah oui, alors c'est le jeu, il y a aucun contrôle. Moi, je veux même pas savoir ce qu'ils font. Moi, je prends les choses comme elles viennent, j'accepte ça. Hein. Et puis là, il y a un artiste, ethnologue, brocanteur, qui vient travailler, on construit un magasin. Donc lui, il vient avec plein de petits objets de curiosité, des petits cosmonautes à 5 euros. Il y aura des petits avions en papier faits par un artiste italien qui s'appelle Mattia. Il y a un peintre italien de l'art brut qui fait des bombes atomiques, des pin-ups, des beaux avions et des fusées. Enfin, c'est vraiment, il y aura tout un, c'est un grand bordel, quoi.
Et ça vous plaît?
Oui, vraiment. Ouais.
Est-ce que justement aussi ces collaborations vous ouvrent à d'autres techniques auxquelles vous touchez pas forcément? Je pense au numérique, par exemple.
Numérique, j'étais happé parce que longtemps j'ai résisté à Internet, puis tout d'un coup j'ai commencé à aller me balader sur la toile, comme on dit, et je me suis fait dévorer par Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive plus à faire mes images, c'est fini, je peux plus, donc je fais que les images que je vois, je suis bouffé par ça. Mais c'est comme au Sahara, hein. Je pense que c'est ça aussi mon.
Sahara que vous connaissez bien.
Ouais, il y a deux choses. C'est ce que je trouve fou, c'est toutes ces strates d'images, les strates qu'on a dans la figure et qui mettent tout au même niveau, c'est-à-dire qu'on peut voir Che Guevara, une boîte de conserve, une saucisse de Strasbourg. Marilyn Monroe, enfin, Marole, il l'a fait, ça, mais tout est, il n'y a plus d'échelle de valeur. C'est ce que je dis, c'est la même chose qu'au Sahara, c'est qu'au Sahara, sur le sol, il n'y a pas d'humus. Donc, tous les objets qui devraient se retrouver à des hauteurs différentes se retrouvent, sur la même ligne d'horizon. Et on croise un biface il y a 2 millions d'années à côté du dernier paquet de Marlboro jeté par un touriste. Et puis, on arrive, il n'y a plus d'échelle de valeur ni de temps, quoi. C'est ça que je trouve fantastique. Alors, Internet, ça m'a fait complètement, je me suis perdu. Perdu, voilà, mais c'est beau d'être perdu. Ouais.
Vous aimez travailler donc avec d'autres et vous aimez aussi transmettre votre art. On a parlé justement des jeunes migrants avec qui vous travaillez. Il y a aussi des ateliers. Vous ouvrez votre atelier, vous créez un atelier ouvert à tous pour fabriquer des objets.
Parce que j'aime, moi, c'est le qu'est-ce qui se passe quand on n'a rien à faire ensemble et puis qu'on doit faire quelque chose ensemble. Ça, je trouve ça fascinant et passionnant. Et
puis rien à faire ensemble, c'est-à-dire
on
se connaît pas.
Des gens de droite, de gauche, des handicapés qui travaillent avec des super professionnels qui vont les freiner et puis que ça dérange. Moi, j'aime bien ça, quoi. Des hommes, des femmes, et puis j'aime bien que chacun soit dans sa zone de non-confort. Moi, le premier. Mais chaque fois, je panique. Hein, ça me terrorise, moi, chaque fois d'ouvrir ces chantiers. Mais je trouve que c'est très très beau ce qui se passe quand ça prend.
Voilà. Qu'est-ce qui vous panique ?
Bah, c'est dur d'être l'instigateur de tout ça, puis se dire est-ce que ça va prendre ? Si ça prend pas, c'est de ma faute. Si ça prend, j'y suis pour rien. En gros, c'est ça. Hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Et puis, c'est pas évident d'être toute cette proximité. Ça veut dire qu'on traverse des tas de zones où il peut y avoir des conflits. Il y a des choses très jolies qu'on vit. Puis des fois, il y a des tensions qu'il faut traverser, quoi, hein, des peurs. Puis je pense que ce voyage qu'on a fait en construisant ces fusées, il nous a tous vraiment profondément changé. Toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, je pense qu'il n'y en a pas un qui est le même aujourd'hui, après cette aventure-là. Vraiment.
Tout le monde peut faire de l'art?
Ouais, bien sûr. Ouais.
Tout le monde.
Ouais. Mais oui, la preuve.
Même si j'ai deux mains gauches, ce qui est mon cas.
Ouais, mais non, moi j'en ai trois, donc ça marche. Mais moi j'ai déjà raconté souvent mon histoire d'artiste, c'est parti sur un grand mensonge, quoi.
C'est-à-dire
une fois que j'avais pris du LSD, que j'étais très jeune, j'ai commencé à faire barbouiller un bout de papier qui est tombé par terre. Je marche dessus sur une mosaïque des catelles dans une salle de bain. Je retourne ça fait une espèce de construction. Je me dis, je dois faire un cadeau pour mes parents qui fêtent leurs 18 ans de mariage. Je vais le faire encadrer chez un encadreur. J'arrive chez l'encadreur qui me dit, c'est magnifique, vous en avez beaucoup. Je dis, oui, 300. Il me dit, c'est bon, exposé dans 2 mois. Et je me dis, merde, si je dois récupérer ce tableau, il faut que je monte quelque chose, parce que il va voir que je suis un monteur. Donc, je me suis mis à travailler, à faire des trucs. J'étais une espèce de marginal qui n'était pas très bien considéré. Du jour au lendemain, je fais une exposition dans les 2 mois qui suivent. Et puis, d'un coup, j'ai vu mon nom à côté de Marvin Gaye. Putain, j'ai dit, c'est la gloire, c'est la totale. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis, pendant, je pense que ça fait juste 5 ans que je suis tranquille avec ça. J'ai pensé que tout le monde allait savoir que j'étais un imposteur, quoi. Tout le monde allait savoir que j'étais un monteur et un tricheur.
Donc, si vous n'avez pas croisé cet encadreur qui vous a trouver du talent.
Ouais. Bah rien. Non, j'aurais fait peut-être autre chose, je sais pas, mais c'était un déclencheur incroyable, quoi.
Autodidacte complet.
Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, après, il y a personne qui a une génération spontanée, hein. Je suis fait de toutes les rencontres que j'ai faites, des films que j'ai vus, des livres que j'ai lus, voilà, hein, c'est pas.